Bonjour et bienvenue dans le balado Précipitations. Ce titre évoque d'une part le manque ou l'augmentation des précipitations aux quatre coins du globe, parmi tant d'autres enjeux liés aux changements climatiques et environnementaux. Il rappelle d'autre part qu'à travers le monde, certaines personnes sont forcées de quitter leur pays, parfois de manière précipitée, et que dans certains cas, les changements climatiques et environnementaux sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans ce balado, les changements climatiques réfèrent aux variations à long terme du climat, des températures et des conditions météorologiques, par exemple le réchauffement climatique ou encore l'augmentation en fréquence et en intensité de risques naturels. Quant aux changements environnementaux, ils englobent les perturbations et altérations de l'environnement plus largement, par exemple la pollution ou encore la déforestation. À l'été 2023, le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA, est allé à la rencontre d'hommes et de femmes d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique centrale qui sont venus trouver refuge au Québec. Nous les avons rencontrés virtuellement ou en personne et leur donnons la parole dans ce balado. Ensemble, leurs témoignages nous éclairent sur les impacts que le climat et l'environnement peuvent avoir sur leur vie quotidienne ainsi que sur leurs déplacements. Bon voyage au cœur d'un phénomène complexe. Nous avons rencontré Ernestine en vidéoconférence. Elle était installée chez elle et ses enfants étaient également à la maison. Ernestine est originaire de la République démocratique du Congo, la RDC. Elle est arrivée au Québec avec ses deux enfants, après avoir passé plusieurs années dans un camp de réfugiés au Malawi.
Malawi, c'est un pays du sud de l'Afrique.
Ernestine nous explique le fonctionnement de certains services dans les pays où elle a vécu, dont la gestion et l'accès à l'électricité.
En Afrique, comme il y a d'abord, on n'a pas d'électricité qui est permanente. On a le grand barrage là dans notre pays qui peut produire de l'électricité. Ça produit de l'électricité même pour des pays voisins. Mais le gouvernement n'arrive pas à mettre les moyens en jeu pour desservir la population de l'électricité. Or, en ayant l'électricité, ça peut diminuer tant soit peu la pollution. On était dans la capitale, mais on n'avait pas d'électricité. Du coup, on avait des bois de chauffage pour préparer avec. Du coup, ça pollue. Il y a des fois, même dans le camp de réfugiés où on était, on devait préparer avec de bois. Et on va se retrouver qu'on prépare dans la maison. Parce que quand il fait froid à l'extérieur ou il pleut à l'extérieur, on ne peut pas mettre le feu à l'extérieur. Du coup, on le met à l'intérieur de la maison. Et la fumée qui nous englobe, tout ça là, ça ne facilite pas aussi un environnement sain. Et puis la gestion aussi des déchets. Il n'y avait pas vraiment une bonne gestion des déchets. Du coup, on s'est retrouvé, il y avait des poubelles à notre entourage et on aspirait des mauvaises odeurs. Et le gouvernement, il peut voir, même les déchets sont entassés dans des artères publiques. Les membres du gouvernement passent par là et voient. Et comment ils peuvent même pas s'impliquer pour la gestion de ces déchets? Il n'y avait pas comme un endroit où c'est fait pour aller mettre les déchets et puis que les déchets soient conduits dans un bon endroit. Même s'il y avait, par exemple, vous pouvez trouver un endroit où on s'est dit, OK, nos déchets, on peut aller les mettre à tel endroit, mais là où on va aller les déposer, ça ne sera pas bien évacué ou ça va là où les diriger et ça va nous revenir pendant la pluie, quand la pluie tombe. Et ces déchets-là vont encore nous revenir, ça ne faisait pas qu'on ait un environnement sain.
Comme Ernestine en témoigne, un accès limité ou une mauvaise gestion de certains services peut avoir un impact sur la santé des personnes.
Et moi-même, je me dis aussi, même les maladies qu'on se pointe là-bas, c'est aussi environnemental, je peux dire ça. Comme des bactéries qui viennent de l'eau, là. C'est de l'eau de la pluie qu'on boit. Et quand l'eau est polluée, il y a des déchets partout. L'eau, là, qu'on boit, ce n'est pas vraiment de l'eau potable, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on se pointe des maladies. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Il y avait une grande inondation qui s'est faite. Toutes les maisons étaient submergées dans l'eau. Et 2 de mes cousines étaient décédées pendant ces inondations-là. Mais le gouvernement ne prend pas les choses en main. Eux voient seulement les conséquences. mais ils ne voient pas la cause. Ils se plaignent de l'inondation, ils se plaignent de tout ce que les changements climatiques apportent, tout ce... mais ils ne voient pas quoi faire pour qu'on n'arrive pas à ces inondations, à ces dégâts naturels.
En plus des impacts sur la santé, l'inaction des personnes au pouvoir face aux perturbations climatiques et environnementales peut avoir des impacts économiques sur les personnes affectées.
Comme les gens qui sont dans des banlieues et qu'il y a des inondations, on fait qu'il n'y ait pas de routes. Les routes sont brisées. Du coup, quand ils ont leurs marchandises ou leurs produits de l'agriculture, ils ne peuvent pas les amener en ville pour les écouler. Ils ne peuvent pas joindre les deux bouts parce qu'ils n'arrivent pas à revenir à leurs besoins, parce qu'ils n'arrivent pas à faire couler leurs produits de l'agriculture. Les routes sont abîmées à cause de la pluie, à cause de l'inondation, à cause des érosions. Ça fait qu'une seule ville mais se divise en deux, que de l'autre bout n'arrive pas à joindre de l'autre bout à cause des inondations, à cause de tout ce qui arrive. Parce que les gens de la ville ne cultivent pas. Du coup, ils dépendent des gens qui sont dans le village ou dans le banlieue. Et quand il y a inondation, ils peuvent, les gens qui sont de l'autre côté ne peuvent pas arriver en ville pour servir ou pour écouler leurs produits. Et du coup, les gens qui sont dans la ville souffrent aussi parce qu'ils ne peuvent pas manger. Du coup, c'est les peu qui a flambé des prix et ils ne peuvent pas acheter à leur bourse parce que les gens de l'autre bout ne peuvent pas venir nous vendre ce qu'ils cultivaient. Donc, du coup, ça nous affectait. Et pour remédier un peu à ça, on se faisait des potagers, on plantait quelques légumes, mais on essayait de répondre, mais pas tout à fait. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Quand la population ne mange pas bien, qu'est-ce que vous allez lui dire de bien faire pour avoir un comportement responsable pour le bien-être environnemental ou climatique? Il ne va pas vous écouter, lui.
Des récits comme celui d'Ernestine, nous en avons entendu plusieurs. Ils illustrent bien l'imbrication complexe de multiples facteurs, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou environnementaux. Dans les épisodes qui suivent, nous vous amènerons aux quatre coins du monde avec les 10 personnes qui nous ont accordé une entrevue pour le balado. Mais avant, place aux grandes présentations. Comme Ernestine, Bernadette est arrivée de la RDC. Elle est venue nous rencontrer au bureau du CERDA. Elle se souvient des alentours de chez elle.
Contexte géographique, les alentours de chez moi. J'étais dans le milieu urbain, en pleine ville même. Il y avait le fleuve. Oh, c'était beau, très beau. On voyait à travers la fenêtre, tu vois les bateaux qui passent, qui partent, qui accostent. On voyait quand il accostait à Brazzaville. C'était au bord du fleuve chez nous, avec une grande parcelle, clôture et tout.
Un peu au nord de la RDC, il y a le Cameroun, le pays que Roland a quitté pour arriver tout récemment au Canada.
Géographiquement, je n'étais pas vraiment en ville. Mais les alentours, parfois il y avait la dégradation des sols, du sol. Quand il y avait souvent la longue sécheresse, oui, dans la terre souvent se fendait. Oui. Il y avait aussi les sociétés qui rejetaient les mauvais gaz, qui parvenaient à arriver dans mon quartier. Bon, avec tout ça, ça faisait que l'atmosphère n'était pas vraiment sereine.
Si nous bifurquons à l'ouest sur le continent africain, nous arrivons au Sénégal, le pays d'Amadou. Nous l'avons rencontré en vidéoconférence une journée où il faisait particulièrement chaud à Montréal. Ses fenêtres étaient ouvertes et l'on entend la circulation en arrière-plan. Justement, il nous parle des bruits et des odeurs de son quotidien au Sénégal.
On va dire que vous habitez près de la route. C'est pas une autoroute, mais c'est deux routes, deux directions. On appelle ça Nyaritali, là-bas, qui veut dire deux voies en wolof, qui est une des langues au Sénégal. Aussi, à côté, il y a une marche. J'essaie de me rappeler parce que je ne réfléchis pas trop à ce genre de choses-là. À côté de là, il y a une marche ici. Marche très chante. Et ça sent beaucoup aussi, ça sent mauvais.
Maintenant que nous avons fait le tour du continent africain, nous allons écouter les propos de Saad, que nous avons rencontré par vidéoconférence. Il est arrivé au Québec en provenance de l'Asie du Sud. Depuis son départ du Pakistan, Saad a voyagé avec sa femme et leurs enfants. la famille a fait plusieurs escales avant d'atterrir au Québec.
I'm coming from Pakistan.
Je viens du Pakistan. Le Pakistan est situé au centre de l'Asie, donc c'est un pays d'Asie centrale. Notre périple migratoire d'un endroit à un autre, ça fait donc au total un 36 à 40 heures. Nous vivions en région, au centre du pays. Là-bas, il n'y a pas les arbres et les montagnes en général. C'est au milieu de la campagne.
Saad est le seul participant du continent asiatique. Présentons maintenant les 5 personnes originaires d'Amérique centrale et du Sud. Arrivée elle aussi en famille, Daniela vivait au Mexique. Elle avait accepté de venir nous visiter au bureau du CERDA pour l'entrevue.
J'étais dans une zone urbaine, donc j'ai l'impression que les pavages qu'il y avait étaient essentiels pour le climat. Ça fait monter la chaleur encore plus. J'avais l'habitude de passer par un endroit près de ma maison où il y avait beaucoup de goudron. Alors on passait et on sentait même ces comme de la colle sur les pneus, même si ma roue était cimentée. Une autre chose, c'est que malheureusement, là d'où je viens, il y avait très peu d'arbres. C'est un autre facteur très important.
Guadalupe est elle aussi arrivée du Mexique et elle nous a parlé au téléphone.
Au Mexique, je vivais dans un immeuble. Alors j'avais un petit jardin, mais il n'y avait pas autant de contact avec la nature comme j'en ai maintenant au Canada. Par exemple, je vais vous dire quelque chose de très, très hors contexte, mais je parle à ma mère et elle me dit que pendant l'appel téléphonique, on peut entendre les oiseaux. Alors qu'au Mexique, on peut entendre les oiseaux, mais ce qu'on entend le plus, ce sont les appels des ordures, de l'eau, des camions, des voitures, des klaxons.
Également du continent américain, nous avons rencontré Julio par vidéoconférence et Margarita par téléphone. Ils sont venus du Nicaragua et leur parcours les a fait traverser les États-Unis.
Nous avons un jardin à l'arrière, comme ils l'appellent là-bas, un patio. Et aussi, j'avais une ferme. C'était l'héritage de ma mère. Mais parfois, il ne pleut pas, donc elle ne donne pas beaucoup de récoltes. Même si nous sommes passés par les États-Unis, ce n'était que 10 jours. C'était comme un transit.
Là où mon mari habite, on peut considérer que c'est un endroit plus rural, mais toutes ces terres qui étaient des fermes ont été vendues et ils ont construit des maisons et des maisons et des maisons, alors c'est devenu comme une communauté. Nous avons traversé le Costa Rica par voie terrestre. Nous sommes passés par le Costa Rica et du Costa Rica, nous avons pris l'avion jusqu'à New York. Et puis de New York, nous sommes arrivés ici par voie terrestre. Notre pays, vous savez, tous les touristes sont fous des paysages, des îles, de la mer. Je ne les changerai pour rien au monde. C'est beau.
Finalement, Elena est venue de la Colombie avec son mari et 2 de leurs 4 enfants.
Oui, depuis que nous avons quitté la Colombie, notre destination a toujours été le Canada.
Le rapport à l'environnement ressort beaucoup dans la description des alentours de leur maison, qu'ils parlent du fleuve, des odeurs, des arbres, des bruits ou des oiseaux. Afin de faciliter nos échanges, nous leur avons posé la question « Quand on vous parle d'environnement, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ?» Voici ce qu'ils et elles nous ont dit.
L'environnement, je vois l'air, je vois la pollution, je vois tout ça. Tout ce qui nous entoure, disons, tout ce qui nous entoure.
L'environnement, c'est tout. C'est tout ce qui nous entoure, y compris les phénomènes. Je veux dire, on parle de terre, de l'air, de la mer, des animaux, des humains, des plantes, tout.
L'environnement, il y a le climat, il y a ce qu'il y a autour de nous, il y a même les personnes font partie de l'environnement, il y a le comportement des personnes, la nature, c'est ça.
Environnement, ça me fait penser surtout à la forêt. Donc, comme vous avez dit, j'aime marcher, et surtout j'aime aller me promener dans la forêt, faire avec la nature, si on peut s'exprimer comme ça. Quand on me dit environnement, je pense plutôt à la végétation, aux arbres, aux herbes et aux animaux. En gros, c'est ça que je pense.
Bon, quand on parle d'environnement, je pense au climat, je pense à. Le plus souvent au climat. Je pense aussi au gaz qui émet tout, les entreprises de la presse, les véhicules, tout et tout. Donc c'est tout ça que je mélange. Je pense que l'environnement d'après moi. Oui, le climat, tout ce qui se dégrade dans l'environnement, les gaz, les produits, toutes les entreprises qui sont là et les effets des produits qu'ils rejettent. Donc, c'est tout ça que je pense un peu à l'environnement.
Le climat et tout ce que nous vivons en ce moment avec les dégâts climatiques que nous avons, qui sont au niveau mondial, parce que c'est au niveau mondial que toute la question du climat est en train de se produire. L'environnement, je l'identifie beaucoup à la culture que chacun d'entre nous a parce que, malheureusement, nous ne prenons pas soin de notre planète. Il y a des gens qui ont la culture et l'amour, et puis ils prennent soin de l'environnement en récupérant leurs ordures. Mais quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Je jetais un bout de papier par terre et je disais, c'est un bout de papier. Mais oui, en grandissant, on se dit, ce bout de papier s'ajoute à un autre bout de papier que quelqu'un d'autre a jeté, à une bouteille que quelqu'un d'autre a jetée. Donc, surtout pour moi, l'environnement, c'est la nature. La planète Terre est une merveille. Il faut en prendre soin. C'est le temps et on n'a pas fini d'apprendre à la connaître.
Dans l'environnement, en été, c'est comme un temps très chaud, mais c'est sec et ça ressemble beaucoup à un environnement doux et donc cela affecte vraiment les changements climatiques. C'est une température moyenne nettement plus élevée que la moyenne mondiale. Selon les experts, ils disent que peut-être en 2030 ou peut-être en 2035, la température et les changements climatiques seraient 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Donc, ça va être de plus en plus chaud et c'est le même effet sur le monde aussi. Et l'environnement a totalement changé. À mon avis, dans 5 à 10 ans ou environ 15 ans, le monde entier se réchauffera parce que les glaciers disparaissent et que les sécheresses se propagent partout dans le monde. Et si un pays souffre, je crois que les autres pays souffriront aussi.
On entend dans la notion d'environnement plusieurs témoignages qui font référence à sa dégradation. Dans le prochain épisode, les personnes nous racontent plus en détail les saisons dans leur pays d'origine et de transit, les bouleversements qu'ils et elles ont vécus, ainsi que les changements observés dans leurs environnements. Le prochain épisode pose la table aux discussions subséquentes sur les facteurs de risque associés aux changements climatiques et environnementaux et aux impacts sur les personnes réfugiées et en demande d'asile qui nous livrent leurs histoires. Merci à toutes les personnes qui nous partagent généreusement leur vécu et leurs réflexions dans ce balado. Merci à Virage Sonore pour la musique et le montage de cette série. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Le balado Précipitation fait partie d'un dossier spécial mené par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cerda.info. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt.